On retrouve un journal complet de la rédaction d'Europe 1 avec vous, Sébastien Krebs.
Merci à vous de nous rejoindre ce matin. Théo Manval est avec nous pour le journal. Bonjour Théo.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Des roses pour Brigitte et quelques épines pour Emmanuel Macron. Vladimir Poutine n'est pas venu les mains vides hier soir au fort de Brégançon. Il refuse toute leçon de son homologue français sur le respect des droits de l'homme. Les premiers militants sont arrivés près d'Andaï pour le contre-sommet au G7 qui se veut pacifique. Le maire de la ville redoute lui toujours la présence de Black Blocs. Dans le journal également, la menace de Donald Trump de taxer le vin français qui préoccupe nos viticulteurs. Au cœur de l'été, où en est le référendum contre la privatisation d'ADP? Et puis quand les abandons d'animaux modifient notre écosystème, un écureuil venu d'Asie est en train de coloniser, eh oui, les Alpes-Maritimes.
Europe 1.
Ils ont passé plus de 2h30 en tête-à-tête avant un dîner qui s'est achevé vers 23h. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine sont apparus souriants hier soir au fort de Brégançon, s'efforçant d'aplanir les tensions sur plusieurs sujets, notamment la crise en Ukraine. Mais on n'a pas échappé à quelques passes d'armes venues crisper un peu les discussions concernant la guerre en Syrie ou la question des droits de l'homme. Le président russe renvoyant son hôte dans les cordes sur sa propre gestion du mouvement des Gilets jaunes, Adrien Beck.
L'air de Brégançon s'est soudainement rafraîchi, questionné sur les récentes arrestations d'opposants à Moscou. Vladimir Poutine les justifie en invoquant les gilets jaunes.
Ça ne se passe pas qu'en Russie. Je suis invité par le président français, alors je suis un peu gêné de le dire. Mais vous savez que pendant les manifestations de gilets jaunes, plusieurs dizaines de personnes ont été blessées. Et on ne veut pas que des événements pareils arrivent dans la capitale russe.
Comme poursuivi par le mouvement, Emmanuel Macron se crispe, les sourires du début de l'entretien sont balayés. Le président français réplique.
Ce qui est important, c'est que quand on a contracté souverainement des traités, on les respecte. Et nous avons d'ailleurs, la Russie comme la France, contracté des accords internationaux qui font que nous avons ensemble décidé que la liberté d'expression, d'opinion, de manifestation, de se présenter librement à des élections, soit respectée dans nos démocraties. Et en France, je le dis aussi ici clairement, c'est pour ça que comparaison ne vaut pas raison, ceux qui ont manifesté se sont présentés librement aux élections.
Illustration d'une rencontre entre chaud et froid, entre volonté d'améliorer le dialogue franco-russe et divergences toujours tenaces. Au fort de Brégançon, Adrien Beck, Europe 1.
Et de Brégançon, direction Biarritz. À présent, où est attendu cet après-midi le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui va présenter le dispositif de sécurisation du G7. Les premiers militants anticapitalistes sont arrivés depuis hier à Andaï, où doit se tenir le contre-sommet qui se veut pacifique à partir de demain. Mais le maire de la ville côtier et Scénario craint toujours l'arrivée de Black Blocs.
Nous avons très peu d'informations de la part des services de l'État. Combien seront les forces de sécurité, combien seront les manifestants, nous l'ignorons. Nous avons l'assurance de la part de la plateforme locale, en tout cas des manifestants, qu'il s'agira d'une manifestation pacifique. Mais incontestablement, on peut s'attendre à l'arrivée d'éléments extérieurs qui voudraient en découdre. Combien seront-ils, qui seront-ils, que voudront-ils? Nous n'avons pas les réponses. Donc, on peut comprendre l'inquiétude des commerçants et de certains habitants. Les quelques informations que nous avons en temps réel, les arrêtés qui pleuvent en ce moment, depuis 48 heures, qui nous modifient le sens de circulation d'une rue, qui suppriment les stationnements, qui interdit d'autres stationnements, font que nous réagissons, nous mettons tout cela sur notre site de la ville d'Andaï, afin que les uns et les autres s'informent au fur et à mesure. Mais très peu d'informations filtrent, c'est vrai.
Le maire d'Andaï, Côtier et Scénario, au micro européen de Claudia Bertram.
Et oui, gros dispositif de sécurité qui va paralyser toute la région. On en parle à 7h45 tout à l'heure avec le maire de Biarritz, Michel Venac, sera mon invité.
Europe 1, 7h05.
L'autre grand titre à la une ce matin, c'est la riposte des États-Unis à la taxe française sur les GAFA.
Les géants du net et le gouvernement américain se sont réunis hier pour répliquer à cette mesure adoptée par le Parlement français le 11 juillet dernier. Parmi les pistes à l'étude, la taxation déjà évoquée par Donald Trump des vins français. C'est l'un de nos plus gros marchés à l'export, les États-Unis. Alors forcément, nos viticulteurs s'inquiètent, Clément Le Saffrin.
Donald Trump veut s'attaquer à un symbole de la France. Il taxe nos fleurons du numérique, alors nous allons taxer leur vin. Voilà en substance ce qu'a décidé le président américain. Selon l'agence de presse Bloomberg, Donald Trump aurait même évoqué en privé une taxe de 100% sur les bouteilles françaises, et ce, dès la semaine prochaine. Alors cette taxe verra-t-elle le jour ou s'agit-il simplement d'un coup de pression? Du côté des vignerons, on reste prudent tant que rien n'est décidé. Certains suivent tout de même cette menace de très près. C'est le cas de Vincent Caillé, producteur de muscadet près de Nantes. 10% de sa production part chaque année vers les États-Unis.
Forcément, je souhaite qu'il n'y ait pas de taxes supplémentaires. C'est bien assez taxé. On se déplace chaque année aux États-Unis. C'est pour améliorer le business. Si les portes se ferment, effectivement, on investira ailleurs. C'est très lourd pour des petits vignerons comme nous de se déplacer. Et donc, faut vraiment optimiser les engagements, quoi.
La menace est d'autant plus sérieuse que les États-Unis sont notre premier importateur de vin devant l'Allemagne et le Royaume-Uni. Ils sont particulièrement friands de Bordeaux et de Champagne. L'an dernier, les importations américaines ont rapporté près de 2 milliards d'euros aux vignerons français.
Clément Le Saffre. Au volet judiciaire, elle avait appelé la police, assurant que son compagnon s'apprêtait à commettre un attentat à l'aéroport d'Orly jeudi dernier. Une femme de 28 ans a été condamnée hier à 6 mois de prison avec sursis. Elle avait lancé cette fausse alerte après une dispute. L'homme en question avait été arrêté avant d'embarquer dans un avion pour Barcelone avec une lame en céramique dans ses bagages. Un outil de travail que ce cuisinier reconnaît avoir oublié et qui lui vaut quand même une amende de 750 euros.
Les aéroports, justement, avec cette question, où en est la pétition pour un référendum sur la privatisation d'Aéroports de Paris? Elle a été lancée il y a 2 mois.
Eh bien, le nombre de signatures n'augmente pas aussi vite qu'espéré pour les organisateurs. Moins de 700 000 à l'heure actuelle. Il en faut plus de 4 millions pour obtenir la tenue de ce scrutin. Les défenseurs de ce référendum d'initiative partagée mettent cette lenteur à l'allumage sur le dos de la trêve estivale. Mathieu Bock, ils espèrent un sursaut à la rentrée.
Cette collecte avait pourtant démarré en trombe. Alors que 17 000 signatures sont nécessaires chaque jour pour atteindre l'objectif, les partisans ont réussi à en collecter jusqu'à 26 000 par jour. Mais depuis, ce chiffre s'est effondré pour atteindre péniblement les 3 000 signatures quotidiennes. On s'y attendait, explique Joseph Guilardi, l'ancien maire UMP de Breil-sur-Roya, l'une des communes les plus mobilisées. L'été a étouffé la mobilisation, dit-il.
Pendant les vacances, c'est beaucoup plus difficile parce que les gens partent. C'est un peu délicat de faire voter les gens. Parce qu'il y a des gens qui ne viennent pas voter parce que la personne qui tient l'ordinateur n'est pas de leur bord politique. Or qu'eux seraient favorables.
Pourtant, tous les partis d'opposition se sont mobilisés contre cette privatisation. Au Parti communiste, on prédit même un regain de signatures à la rentrée, explique Fabien Roussel, son secrétaire national.
La fête de l'UMA sera un rendez-vous important. Nous allons pouvoir toucher des dizaines de milliers de nos concitoyens et leur demander de signer la pétition. Mais aussi, ce sera l'occasion d'annoncer les prochains rendez-vous avec d'autres forces politiques de gauche et de droite pour dire « nous ne voulons pas la privatisation d'ADP ».
Le PC espère franchir le cap du million de signatures en septembre, bien loin encore des 4 300 000 nécessaires qui doivent être atteints au plus tard le 12 mars prochain.
Mathieu Bock pour Europe 1. À l'étranger, le randonneur français Simon Gauthier serait mort très rapidement après sa chute dans un ravin en Italie. C'est ce qu'indiquent les premiers résultats de l'analyse du corps par la gendarmerie italienne. Le jeune homme de 27 ans aurait succombé à une hémorragie interne moins de 2 heures après son appel aux secouristes. Le réseau social Twitter fait fermer des milliers de comptes en Chine. Il accuse les autorités chinoises d'avoir utilisé ces services pour mener une vaste campagne de désinformation contre les manifestants pro-démocratie à Hong Kong. Hong Kong où la crise couve toujours avec les troupes de Pékin qui restent massées à la frontière. Les 40 000 Français installés dans le territoire commencent à craindre pour leur business. Sébastien Le Belzic.
Un petit Paris à l'ombre des gratte-ciels du quartier des affaires. Le district de Centrale est le poumon économique de Hong Kong. Olivier Caisson y travaille depuis 11 ans.
On travaille beaucoup dans le luxe, on travaille beaucoup dans la restauration et Hong Kong nous offre tout ça. Donc on a un marché de restaurants qui explose, on a un marché du luxe on a explosé dans notre domaine et ça a été intéressant.
Une dizaine de bars et de restaurants plus tard, il veut encore croire au potentiel de cette ville.
La baisse d'occupation, elle se fait vraiment sur le fait que les médias accentuent sur les violences et tout le monde a peur de venir sur Hong Kong. Nos familles nous appellent une fois par semaine ou quasiment tous les 2 jours pour savoir comment ça se passe.
Près de 40 000 Français vivent à Hong Kong, c'est 3 fois plus qu'il y a 10 ans. Beaucoup de jeunes tentent l'aventure ici. Charles Soulis, 34 ans, importateur de vin français.
Ce qui est un peu bizarre, c'est de voir Hong Kong comme ça, c'est surtout ça. Je ne sais pas où ça peut aller jusqu'en décembre cette année, mais ça fait un petit peu peur.
Les ventes de produits de luxe ont fondu de 30 à 50% selon les enseignes cet été. Mais ni les expatriés, ni les grandes entreprises françaises n'envisagent pour l'instant de plier bagages. À Hong Kong, Sébastien Le Belzic, Europe 1.
Et puis on va terminer ce journal Théo Manval avec tout autre chose quand les abandons d'animaux ont des conséquences inattendues sur notre écosystème.
Plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'animaux sont abandonnés chaque été selon les chiffres de la SPA. Et il s'agit parfois d'espèces exotiques, ce qui n'est pas sans conséquence pour l'environnement. Soit ces animaux meurent, soit ils se développent et chassent les espèces locales. Dans les Alpes-Maritimes, un écureuil venu d'Asie est en train de devenir un fléau, Frédéric Michel.
C'est un bois qui domine Antibes et son front de mer. Un bois envahi d'animaux qui n'ont rien à faire dans ce paysage méditerranéen. Alexandre Viguier est inspecteur à l'Office national de la chasse et la faune sauvage.
Mais là, depuis, on va dire, deux décennies, sur la Côte d'Azur, certaines espèces qui ont été des animaux de compagnie à la base, qui ont été remises à la nature ou échappées, ont bien colonisé tout le territoire, dont notamment l'écureuil de Palas. Et ensuite, ce qu'on entend régulièrement aussi, la perruche à collier.
Venue d'Asie, l'écureuil de Palas est mignon, mais crée d'importantes nuisances. Olivier Lambert est souvent appelé pour des prélèvements. Avec son fusil, il n'est pas toujours le bienvenu, mais son action est essentielle pour l'environnement.
Les populations ont augmenté et ça a commencé à faire des dégâts sur la faune, tout ce qui est ligne téléphonique, arrosage automatique, écorçage des arbres. Le moindre potager, c'est bon, il le pille. Hein.
Des conséquences sous-estimées à l'époque où les animaux ont été remis en liberté. Aujourd'hui, les nouveaux animaux de compagnie sont souvent des insectes et là aussi, il y a danger à les rejeter dans la nature. Les espèces exotiques envahissantes sont reconnues comme la troisième cause de l'érosion de la biodiversité mondiale. Antibes, Frédéric Michel, Europe.
Voilà, donc on n'abandonne ni les chiens, ni les chats, ni les écureuils, ni les insectes, évidemment, pendant l'été et toute l'année.
Ni les perruches, effectivement. Merci, c'était le journal de Théo Manval.